Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Dans un épisode que nous avions diffusé en 2023 et qui s'appelait « Sœurs de plainte », Karine Lelouette racontait comment des victimes de viol s'étaient mises elles-mêmes à la recherche d'autres victimes d'un même agresseur ou bien s'étaient trouvées ensemble dans le bureau d'un juge d'instruction. Elle montrait comment le fait de rencontrer des femmes qui avaient vécu la même chose leur avait donné de la force, du réconfort et parfois des arguments pour leur procès. Elle racontait l'étrange sororité ou fraternité de celles et ceux qui ont traversé le même enfer, des survivants et des survivantes qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre, de ceux qui savent. Certains les appellent alors les co-victimes, d'autres les co-abusés. Jusque-là, ces rencontres se faisaient de façon fortuite ou à force d'incroyables persévérances. Désormais, il y a une personne qui s'est saisie de cette urgence, a compris la force qu'on peut puiser dans le partage d'une expérience, aussi dure soit-elle. Seul et bénévolement, il a créé une plateforme qui compte maintenant 8000 utilisateurs et a permis de réaliser 300 matchs, comme il l'appelle, dans un premier temps, la rencontre virtuelle entre deux co-abusés. On l'écoute tout de suite au micro de Valérie Borst.
Je suis Franck Favre, j'ai 59 ans, je suis marié et j'ai un fils. Je suis le créateur et le webmaster du site coabuse.fr depuis 8 ans. Nous sommes à Ranchal, c'est un petit village du Beaujolais vert de 320 habitants. Et c'est ici qu'est né Coabuse, puisque c'est ici qu'en 2015, ma maman, qui était catholique pratiquante, m'a informé du fait que le père Prénat, qui était notre curé de village et d'une dizaine de communes environnantes, était en fait un pédocriminel, que ceci était connu depuis longtemps de ses supérieurs hiérarchiques de Lyon, et qu'il l'avait envoyé dans nos campagnes pour une mise au vert, si je peux dire. Et bien évidemment, en nous cachant sa dangerosité, et ça m'a choqué, puisque j'ai considéré ça comme une mise en danger de nos enfants à notre insu. En tant que webmaster du site du village qui s'appelle Ranchal Village Vert, je disposais d'un outil qui va me permettre de communiquer ma colère. C'est en fait une newsletter à laquelle sont inscrites 200 personnes. Donc j'envoyais des newsletters pour informer les gens de tout ce qui se faisait un petit peu. Et j'ai alors diffusé une lettre d'information dont le titre « Stupeur et indignation » explique bien la teneur. Dans le but de créer quelque chose, une réaction, enfin qu'on puisse bouger, se fédérer pour que ça ne se reproduise pas. Mais là, j'ai tout de suite compris, en essayant d'éveiller les consciences, qu'en fait, les gens, ils n'avaient pas envie d'en parler. Et donc, je suis confronté à l'omerta et je comprends tout de suite que c'est cette omerta qui fait que, bien, sans arrêt, on a des scandales qui sortent et on se rend compte qu'il y a des gens qui ont abusé des enfants toute leur vie et qu'il y avait plein de gens au courant, mais que ça continuait. Donc à l'époque où j'écris cette newsletter, le prêtre a déjà été muté. Donc c'est ça qui me pousse vraiment à réagir à ce moment-là. Et ma newsletter n'ayant pas grand effet, je me dis, je vais essayer de trouver des victimes de ce prêtre et voir ce qu'on peut faire ensemble. En 2017, je crée librement un outil que j'appelle Coabuse et qui a pour but de mettre en lien les victimes d'un même agresseur. Donc je vais mettre à disposition un formulaire qu'on pourra remplir sans aucune condition. Je me suis engagé à être le seul à prendre connaissance des formulaires et à les traiter. C'est une confidentialité extrême. Et évidemment, toutes ces informations ne sont pas en ligne, donc elles ne peuvent pas être l'objet d'un piratage, c'est tout hors ligne. Quand ils envoient leur formulaire, ils ont juste un petit message qui dit « je reste vigilant et je m'occupe de vous ». Quand vous remplissez un formulaire Coabuse, c'est un petit peu comme si vous jetez une bouteille à la mer. Et donc il y a pas mal de gens qui ont jeté cette bouteille à la mer et qui l'ont totalement oubliée Et puis un jour, ils reçoivent un match. Alors le match, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que avec mes outils informatiques qui me signalent des occurrences, par exemple un nom qui revient, etc. Mais après, faut aller voir si les régions correspondent, les dates. Et quand l'agresseur est encore en mesure d'agresser de nouvelles personnes, là, c'est une vraie inquiétude qui arrive. Et c'est là où je peux être actif. Et c'est là où on est vraiment motivé. C'est quand on peut stopper un agresseur, éviter de nouvelles agressions. Ça, c'est le but suprême. Si je me rends compte que deux personnes sont susceptibles d'avoir été agressées par le même agresseur. Dans ce cas-là, ils reçoivent chacun un email qui leur dit « A priori, on a identifié un co-abusé. Est-ce que vous m'autorisez à transmettre uniquement votre adresse mail à votre co-abusé présumé ?» Et je leur précise que quand j'aurai reçu l'accord des deux, chacun d'entre eux recevra l'adresse email de l'autre. C'est tout. Je les ai mis en contact et donc ils jouissent d'une totale liberté à communiquer par téléphone, à se voir physiquement, à peut-être agir ensemble. Voilà. Et je crois qu'il y a une affaire qui est sortie avec Coabus dès le départ et qui m'a quand même aidé à faire connaître la plateforme. C'est l'affaire Perard dans laquelle j'ai mis en contact 22 victimes qui se sont fédérées et qui ont poursuivi leur agresseur et qui l'ont finalement fait condamner. Elles sont crues par la justice parce qu'elles sont plusieurs. Quand une victime est seule et qu'elle va devant la justice, si l'agresseur n'avoue pas, c'est parole contre parole, c'est non-lieu, c'est perdu d'avance. Dès que vous êtes deux, ça change tout. Aujourd'hui, j'ai plus de 8000 utilisateurs et je suis à plus de 300 matchs. Je me rends compte que ça va bien au-delà de ce que j'imaginais au départ et qu'aujourd'hui, il y a 8000 personnes qui ont placé des espoirs dans l'outil et que chaque fois qu'un nouvel utilisateur vient sur Coabus, non seulement c'est une nouvelle personne que je vais aider, mais c'est aussi une façon d'optimiser la chance d'avoir des matchs pour tous les utilisateurs précédents. Alors au départ, je dois avouer que ça a été compliqué psychologiquement. Parce que quand vous recevez des témoignages d'horreur, quand on vous donne des détails précis d'agression sexuelle, c'est parfois choquant. Et de gens qui sont impactés très fortement dans leur vie, dépression, voire suicide, puisque j'ai des victimes collatérales qui me font part du suicide de leurs proches. Moi, je travaille à côté, je fais ça totalement bénévolement. Et quand on n'est pas formé pour ça, c'est compliqué. J'ai un petit peu atteint, quoi. Et j'ai réussi à prendre du recul. Et là, j'ai des affaires en cours où on va essayer de stopper des agresseurs qui sont vraiment dans les positions idéales aujourd'hui de continuer à abuser d'enfants.
Je m'appelle Rachel Bonneau, j'ai presque 49 ans. Je suis maman de deux enfants. J'habite à Liffré, juste à côté de Rennes. J'enseigne l'accordéon diatonique dans une école de musique depuis 31 ans cette année. À l'époque, j'avais 13-14 ans, donc très comblée par l'accordéon. Vraiment, j'aimais beaucoup ça. Et donc mon professeur me poussait à faire des concours, donc je me suis inscrite à un concours assez renommé en Ille-et-Vilaine. Et il y avait un prix spécial pour le premier du concours, hein, qui était un stage d'accordéon diatonique à côté de Redon. Alors le prix m'est revenu. La personne qui offrait ce stage m'avait repérée et souhaitait que j'aille faire ce stage pour me pousser à aller plus loin dans la pratique de l'accordéon. Et donc j'ai été amenée à faire des stages avec lui en août 94, voilà. C'est un stage qui se passe un petit peu comme sur un lieu de colonie de vacances. Il y a des stages de plusieurs instruments de musique traditionnelle. Il y a de l'accordéon diatonique, il y a de la bombarde, il y a de la harpe. Il y a vraiment toutes sortes d'instruments en collectif avec entre 7 et 10 stagiaires par discipline. Et puis, on reste sur place une semaine, un petit peu à l'écart du monde, comme dans un parc, et c'est vraiment magnifique. C'est très très festif. Tous les soirs, il y a des veillées où on peut continuer à jouer, où il y a des festounos, donc les fameuses fêtes bretonnes où on danse les danses bretonnes. Et puis, il y a un bar qui est ouvert jusqu'à pas d'heure. C'est une ambiance incroyable. C'est un milieu, le milieu breton, où ça boit énormément. L'alcool coulait vraiment à flot. Et cet accordéoniste-là, ce professeur que j'avais, buvait beaucoup et payait beaucoup de coups à boire. Et quand on a 15 ans, qu'on se fait payer des coups à boire, c'est super parce qu'on n'a pas d'argent à débourser. Et puis, petit à petit, on se rend compte que s'il nous fait boire, c'est pour avoir un petit peu plus d'emprise sur nous, que ça permet de se lâcher un peu plus, désinhibé, d'oser faire des choses qu'on ne ferait pas forcément sans avoir bu. Et je pense qu'il a abusé de moi alors que j'étais pas consentante ou en tout cas inconsciente. Donc il m'a dépucelée lors de ce stage. Quand ça s'est passé, j'avais 15 ans. Il avait 39 ans, donc il y avait 23 ans d'écart. Et donc petit à petit, moi, de mon point de vue en tout cas, je me suis vraiment accrochée à lui parce que c'était une référence et aussi parce que j'avais l'impression, pour une fois dans ma vie, quelqu'un s'intéressait à moi. Et puis à 15 ans, en fait, on aime bien que quelqu'un nous remarque ou on se sent un petit peu spécial. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais pas si spéciale que ça, parce que je voyais bien qu'il tournait autour d'autres filles de mon âge. Avec toute ma force, je me suis accrochée et à 18 ans, j'ai arrêté mes études, je suis allée vivre chez lui et je travaillais pour lui dans une association qui éditait des livres de musique. Et donc, c'était à la fois mon patron, mon professeur d'accordéon, mon modèle. Je pense que quand j'ai parlé de lui pendant des années, j'avais des étoiles dans les yeux et j'étais fière. Et puis, il avait des contacts, et il me trouvait des cours d'accordéon, il me plaçait un petit peu partout. Il est arrivé un jour sous alcool chez lui que la soirée s'est un peu mal passée. On a commencé dans un jeu où on se donnait des baffes et ça a dégénéré et il m'a violée. Et j'ai réussi à m'enfuir, j'ai pris ma voiture, je sais qu'il me courait après. En tout cas, à ce moment-là, je l'ai quitté et je suis allée vivre chez mon plus jeune frère. Donc ça a été un premier pas pour le quitter, mais malgré tout, je travaillais avec lui et je voulais pas perdre ce travail parce que on a quand même besoin d'argent et puis on sait pas ce qu'on va faire. Et puis lors d'un voyage à l'étranger, même genre de situation, on a pris un apéritif, il n'y a pas eu de jeu bizarre, mais tout d'un coup il a changé vraiment de comportement, il était extrêmement alcoolisé et j'avais accepté de faire ce voyage parce qu'il m'avait promis qu'il n'y aurait pas de souci, on prendrait bien deux chambres d'hôtel séparées, tout ça. Et puis en fait, arrivé sur place, quand même, c'est moins cher de prendre qu'une chambre, je te promets, il se passera rien, je te respecterai, je te toucherai pas, etc. Et puis finalement, un soir, il m'a reviolée et je me suis retrouvée dans une ville à l'autre bout de la terre, à errer, à me demander ce que je faisais. Et c'était vraiment une urgence pour moi de réussir à sortir de cette situation et de m'éloigner de lui parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il se servait de moi et que j'étais juste l'objet de quelqu'un et je n'étais pas moi. Donc finalement, je suis restée avec lui de mes 15 ans à mes 30 ans. J'avais 30 ans, je n'aurais jamais osé aller porter plainte contre lui. Jamais. Trop peur. Trop difficile. En 2017, j'ai été contactée par la gendarmerie d'une commune du Finistère parce qu'une femme portait plainte pour des faits qui s'étaient produits alors qu'elle avait 15-16 ans. Elle a pris conscience pendant le confinement de tout le mal que lui avait fait cette rencontre avec cet accordéoniste. Et ça a surgi en elle pendant le confinement. Et du coup, moi, je me suis tout de suite portée volontaire et je me suis dit, moi, j'essaye de faire mon deuil de ça, d'avancer. Mais si je suis pas toute seule là-dedans et qu'il y en a qui n'ont pas la force d'avancer et qui ont besoin de faire le point là-dessus, je vais les aider à faire ça. Je suis allée à la gendarmerie et quand j'ai porté plainte pour les viols que j'ai subis, je me suis rendu compte que j'étais encore sous son emprise. Parce qu'il m'a écrit plusieurs fois, il a essayé de me faire peur. J'ai été arrêtée parce que je n'osais plus aller sur mon lieu de travail, parce qu'il me disait qu'il allait venir me chercher. Donc, c'était pas fini, en fait. Donc, en gros, je n'osais pas porter plainte. Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue. Et Coabuse est arrivé beaucoup plus tard. Un jour, je reçois un lien vers Coabuse et puis j'ai le temps, cet après-midi-là, je clique sur le formulaire, puis je le remplis. Dans l'attente de rien du tout, moins de 15 jours après, je reçois un mail de la plateforme Coabuse m'indiquant qu'il y a un match. Et est-ce que je vais être mise en relation avec le match ? Et je réponds oui. Et peu de temps après, le match m'écrit et je me dis « waouh ». Parce que c'est un match avec un point de départ commun qui est fort parce que ça marque toute une vie, en fait. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui nous liait et que j'allais me faire une amie pour les mauvaises raisons. Je connais cette personne par échange de mails, de SMS. Et on s'est eu au téléphone très peu de fois. Et je me suis sentie très proche d'elle, mais vraiment tout de suite. En tout cas, j'ai ressenti très vite le besoin de la rencontrer. Elle, un petit peu moins, a besoin de plus de temps. Et tout ça, je l'ai respecté. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais rencontrer ma co-abusée avec qui j'ai été en contact depuis quelques mois. Et on a beau habiter très loin l'une de l'autre, j'ai eu envie de faire ce déplacement parce que j'ai vraiment envie de la rencontrer et je me fais vraiment une joie de la rencontrer. Il faut que ça se fasse, c'est important. Je suis heureuse de pouvoir faire ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être une copine ou une future amie et j'espère qu'on va réussir à dépasser tout ça et peut-être un jour ne plus en parler, juste passer du bon temps ensemble.
Ah, c'est bien. Je suis impatiente. Peut-être qu'elle est déjà en haut des marches. Je cherche. Elle est où?
Si ça se trouve, elle a fait machine arrière. Elle va peut-être jamais venir et on va recevoir un message comme quoi elle le sent pas. Alors, je vois quelqu'un tout seul là-bas. C'est elle. Coucou. Ouais, on va aller à sa rencontre quand même. Ça y est. Alors, je pleure pas, mais l'émotion est là. Hein, t'es belle comme tout.
Mais toi aussi. J'ai pas de mots, voilà, je m'y attendais. Les larmes, presque.
Oh. Je suis trop contente.
Et pareil, j'ai l'impression que c'est encore un poids qui s'enlève.
Oh, c'est super.
J'ai plus de mots, là.
On va faire plein de choses ce week-end.
On va en profiter à fond.
C'est difficile, on peut parler de mon voyage. Écoute, j'ai adoré le bus. Hein. Moi,
c'est vrai.
Moi, je repars faire le tour de la France en bus, sans problème.
Mais je l'ai fait trois fois, quand même.
Ouais, on le fera peut-être ensemble, un jour.
Et qui sait, pourquoi pas, on peut faire le tour de l'Europe, comme ça.
Ah, ce serait cool. Tu vois déjà des projets qui sont un peu différents de ce qui nous vit.
Je vais bientôt avoir 40 ans. J'enseigne le violon. Puis je fais aussi des concerts selon la demande d'orchestre quand ça se présente. Et voilà, je suis passionnée par mon métier. Cet instrument, il permet de tout exprimer, en fait, tous les sentiments de joie, de tristesse. Et ça m'a énormément aidée dans les moments où j'étais pas forcément très bien. Je me défoulais sur mon instrument, mais c'était libérateur aussi. Et ça m'a permis d'avancer sur ma réflexion, sur comment continuer d'avancer avec cette histoire. Et dans ce processus-là, j'ai découvert en cherchant un peu sur Internet quoi abuse. Et ça m'a interpellée parce que forcément, ça me parlait. Hein. J'étais jeune majeure. Je sortais d'une grosse dépression après mon baccalauréat, où j'avais eu beaucoup de pression entre le conservatoire où j'étudiais donc le violon, le lycée où c'était assez exigeant. Et donc j'ai même arrêté pendant plusieurs mois la pratique du violon. Et petit à petit, plusieurs mois après, pour me remettre le pied à l'étrier, reprendre un nouveau départ, je me suis dit pourquoi pas faire un stage de musique, mais d'une autre musique que celle que j'étudiais au conservatoire. Et donc en cherchant sur internet, je suis tombée sur ce stage où on m'a dit oui, il y a de la place, vous pouvez vous inscrire. Et donc je suis partie à ce stage. Et c'est à la fin du stage, effectivement, le dernier soir où je suis tombée, on va dire ça comme ça, sur la personne. Donc il y a eu une première agression ce dernier soir de stage. J'ai mis des années à réaliser que c'était une agression. Et j'ai voulu revoir cette personne. Mais en pensant, je vais prendre un cours de musique, tout simplement. J'étais en pleine recherche de mon avenir. Je voulais faire de la musique mon métier. Donc quoi de mieux que prendre des cours? Et je pense que j'ai gardé que le côté professeur de musique. Dans ma tête, c'était prendre des cours. Et sauf qu'en fait, quand j'ai revu cette personne, eh ben là, ça a été l'horreur. Il y a eu un viol quand je l'ai revu. Comment j'aurais pu imaginer ça, en fait? J'étais immature pour mon âge et naïve, ça c'est sûr, en n'ayant aucune expérience dans la vie. Je veux dire, je sortais du lycée, j'avais que la tête dans mon avenir à construire. J'étais pas du tout même dans la recherche de petits copains, ou j'étais pas du tout là-dedans, en fait. Et par contre, après, j'avais ces flashs qui revenaient en permanence et je ne comprenais pas pourquoi. Je croyais voir cette personne partout. Chaque fois que je voyais un homme qui pouvait un peu lui ressembler, je croyais la voir. Et pendant des années, ça m'a abîmé, ça m'a sali. Et c'est pour ça que ça a été très long de remonter la pente. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu reprendre des études et que j'y arrivais pas, parce que j'avais encore lui en tête. C'est vrai que dans mon parcours, par rapport à d'autres anciennes camarades de classe ou d'études, j'ai pris beaucoup plus de temps, en fait. Et aujourd'hui, c'est pas encore acquis au niveau professionnel. Et d'où la démarche de m'inscrire sur ce site. Et j'hésite, et puis j'y reviens, je me souviens plus, peut-être quelques semaines après, parce que ça m'avait interpellée. Et quand j'ai reçu le match 15 jours seulement après, j'ai failli prendre le mail reçu pour un spam, et heureusement que je l'ai pas jeté, que je l'ai lu. Et en le lisant, je passais par plein de sentiments différents. Le premier, c'était presque une euphorie, parce que tout d'un coup, mon ressenti pendant toutes ces années, c'était plus seulement un ressenti, c'était concret et réel et prouvé, parce qu'il y avait une autre personne qui avait subi la même chose que moi. La co-abusée, en me parlant de son histoire, elle m'a fait me remémorer des souvenirs que j'avais oubliés. Elle m'a rappelé que, mais avec moi aussi, il a fait ça. Et donc je me dis, c'est pas moi qui étais folle, j'ai rien inventé, ce que je savais au fond de moi sans pouvoir le dire, c'est vrai en fait. C'est comme si ça me donnait le droit d'exister, en fait, et d'être comme je suis, et non pas en cachant tout ça, en essayant d'avancer avec ce poids malgré moi. Et ça, c'est énorme, finalement, parce que ça change l'attitude au quotidien, ça change ma façon d'être dans mon travail, avec mon compagnon, avec ma famille. Et c'est hyper libérateur et hyper salvateur. Ça a vraiment tout transformé, vraiment. Alors j'ai décidé de reprendre une procédure juridique, judiciaire, pour moi bien sûr, mais aussi pour les autres. J'ai envie de les aider, qu'on soit ensemble, unis. Et c'est pour cette raison qu'à partir du moment où j'ai eu ce match, en fait, je ne pouvais plus faire marche arrière, c'était plus possible. Sinon, je serais coupable de non-dénonciation, c'est pas possible. Et aussi pour plus que ça se reproduise, en fait, parce qu'on sait pas aujourd'hui. Et moi, à cette idée-là, j'étais obligée de reprendre ces démarches, pour ma conscience aussi et pour les autres. Et donc, j'ai décidé de porter plainte 8 jours avant la prescription des faits. Et sans ce match sur Coabus, c'est clair que j'aurais jamais été au bout de cette procédure, parce que j'appréhendais quand même, je voyais la date se rapprocher. Ah mince, bon bah tant pis. Et je sais pas comment j'aurais pu avancer après la prescription sans tout ça, finalement. Je pense que la peur, elle diminue un petit peu, elle existe encore, mais ce qui l'atténue, c'est la force d'être plusieurs. Donc je pense que je suis de plus en plus confiante. Et aussi grâce à de la co-abusée aussi, qui a le courage de venir, ben ça change tout. Vraiment, ça donne une force et ça nous permet en tout cas d'avancer en me sentant beaucoup moins isolée. Et donc je pense que c'est une amitié qui va grandir. Comme indestructible, hein, c'est à la vie et à la mort. Hein, et j'ai envie, donc oui. On va construire des moments positifs et profiter un peu de la vie, finalement. Il serait temps.
We came out of the cinema, we were rubbing our eyes, our mouths were dry.
C'était Franck et les co-abusés, un reportage de Valérie Borst réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Franck Favre de la plateforme Co-abuse et aux co-abusés rencontrés pour cet épisode. Merci également à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Luce Mourant, notre stagiaire.
Might as well say